La deuxième vague à peine passée, l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète dans un communiqué publié ce matin de la survenue d'une troisième vague en Europe début 2021. Et de fait, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les Pays-Bas n'ont pas attendu les fêtes pour durcir ces derniers jours les mesures de confinement de leur population. En France, si la situation s'est nettement améliorée par rapport au mois de novembre, les indicateurs, à peine le confinement relâché, redeviennent préoccupants. Le nombre de cas positifs atteint un plateau au-dessus des 10 000 cas par jour et le taux de reproduction du virus flirte avec le seuil épidémique. Alors la troisième vague annoncée à quelques jours de Noël est-elle inéluctable ? Covid-19, peut-on éviter une troisième vague ? C'est le programme épidémiologique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le bilan de l'évolution de l'épidémie, tant dans la population générale que sur les statistiques hospitalières, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dominique Costagliola. Bonjour. Dominique Costagliola.
Bonjour.
Ah, allô ? Oui, ça y est, je vous entends à nouveau. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes directrice de recherche à l'INSERM et lauréate depuis quelques jours du Grand Prix de l'INSERM 2020. Félicitations. Et nous avons également aujourd'hui au téléphone Florence Adair. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital de la Croix-Rousse et chercheuse au Centre international de recherche en infectiologie et également lauréate du prix Recherche INSERM 2020. Donc félicitations également. Mais on commence avant de vous retrouver par l'actualité scientifique du jour et le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha.
Bonjour Nicolas.
Et pour commencer ce journal, Natacha, le ministre de la Santé britannique a évoqué l'existence d'une nouvelle variante du coronavirus qui aurait été identifiée dans le sud-est de l'Angleterre.
Oui, hein, et cette variante serait liée à une propagation plus rapide. Au 13 décembre, 1100 cas de cette variante ont été identifiés dans la région. Alors que sait-on de ce que les journaux appellent déjà super Covid ou encore Covid mutant ? Alors cette souche a déjà été séquencée fin septembre par des chercheurs anglais. Elle présente en effet un grand nombre de mutations, 17 au total. Mais, on le répète assez souvent dans la méthode scientifique, un virus mute tout le temps. Et en juillet, on comptait déjà 12 000 virus mutants, hein, entre guillemets. Alors deux ensembles de mutations concernent la protéine Spike, la clé hein, qui permet au virus d'infiltrer nos cellules. Alors pour le moment, on ne sait pas du tout hein, s'il s'agit de mutations importantes. On ne sait pas si elles ont permis au virus de transmettre plus efficacement. Nous n'avons aucune preuve hein, que cette souche se propage plus vite que les autres. De la même façon que nous ne savons pas si cette lignée du SARS-CoV-2 est plus dangereuse. A priori non, plus infectieux, cela ne signifie pas nécessairement plus dangereux. Et nous ne savons pas non plus si ces mutations peuvent nuire à l'efficacité des vaccins. Il est encore beaucoup trop tôt pour le juger.
Voilà, on reparlera de cette souche mutante avec, on l'espère, peut-être plus d'informations et plus de publications dans la radiographie du coronavirus vendredi matin dans les matins de France Culture à 7h15. Et puis comme toujours, vous pouvez retrouver toutes les études concernant eh bien, les sujets abordés dans le journal des sciences ainsi que dans l'émission sur notre fil Twitter, @lamethodefc. On passe au bref. La Norvège a donné son feu vert pour le stockage de CO2 sous la mer.
Le stockage de CO2 est un marché en plein développement qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela consiste à capturer, en sortie d'industries polluantes, le CO2, puis de le transporter par pipeline ou par container pour l'enfouir dans les couches géologiques profondes. Le gouvernement norvégien va financer en grande partie le Northern Lights, un immense chantier qui réunit les géants du pétrole, Equinor, Total et Shell. Tous les ans, à partir de 2024, 1,5 million de tonnes de CO2 devront être stockées sous la mer du Nord, à 100 km des côtes. Néanmoins, cette technologie reste controversée, les risques de fuite ou de pollution des nappes phréatiques sont encore mal évalués.
Selon une étude parue dans Scientific Reports, les jeunes corbeaux sont aussi intelligents que des grands singes adultes.
Une équipe allemande a fait passer à 8 corbeaux âgés de 4 mois des tests pour évaluer la cognition animale. Leurs résultats ont été comparés à ceux de chimpanzés adultes et d'orang-outans. À seulement 4 mois, les oiseaux présentent les mêmes compétences cognitives, physiques et sociales que ces singes. Ils comprennent les nombres et l'addition, ils peuvent apprendre et communiquer avec leur maître, et ils saisissent la permanence des objets, c'est-à-dire le fait de comprendre qu'un objet continue d'exister même lorsqu'on ne le perçoit plus. Cette étude prouve encore une fois que les capacités cognitives des corps vidés sont complexes et sophistiquées.
Et on va vous remettre le lien vers l'émission que nous avions consacrée à l'intelligence des corps vidés, ces oiseaux merveilleux. Allez, enfin, pour conclure ce journal, Natacha, dans le journal Le Monde, 300 universitaires et scientifiques se mobilisent dans une tribune pour sauver le magazine Science et Vie.
Et depuis son rachat l'an dernier par le groupe Reworld Press, la rédaction de Science et Vie a d'une part perdu le tiers de ses journalistes, mais elle a aussi perdu l'indépendance de sa ligne éditoriale. Sur le site web, depuis septembre, on voit des articles publiés qui sont rédigés par des chargés de contenu qui ne sont pas journalistes et qui diffusent de fausses informations. Les signataires de cette tribune dénoncent les pratiques du groupe Reworld Press dans un contexte où plus que jamais nous avons besoin d'une information scientifique libre et de qualité. Par ailleurs, pour soutenir la rédaction du magazine Science et Vie, une pétition circule sur le site change.com.
Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences et là aussi on vous met le lien vers la pétition pour soutenir nos camarades et nos collègues de Science et Vie sur notre fil Twitter @laméthodefc. Avant de rentrer dans le cœur de l'émission, je profite de vous avoir Dominique Costagliola, peut-être pour vous poser une question sur cette souche mutante ou ce nouveau variant avec 17 mutations qui circulent en Grande-Bretagne. On sait que dès qu'on parle de mutations virales, ça inquiète beaucoup le public. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que vous en savez, vous, précisément?
Pas plus que ce qui a été dit dans le résumé. Donc, c'est pas la première mutation qu'on décrit, ou pas le premier ensemble de mutations qu'on décrit. Il y a plusieurs milliers de souches déjà qui ont été versées dans les bases de données internationales. Et donc, c'est logique qu'il y ait ces mutations, parce que c'est un virus à ARN, et donc il mute à chaque fois qu'il va se répliquer. Alors, plutôt moins que la grippe, parce qu'il a un système de réparation des erreurs lorsqu'il se réplique. Mais ce qui est important, ce n'est pas tellement cela. Ça, on s'attend à ce qu'il y ait des mutations, ça n'a rien de surprenant. Ce qui serait important, c'est de pouvoir comparer l'évolution de la maladie quand on est infecté par cette souche versus d'autres souches du même virus. Est-ce que ça change le devenir clinique? À ma connaissance, pour l'instant, on n'a jamais décrit cette situation-là. Je ne connais aucun papier dans la littérature qui ait rapporté cela. Et puis l'autre aspect qui a aussi été évoqué dans le résumé, c'est est-ce que ça modifie la capacité du virus à se transmettre? Et là non plus, on n'a pour l'instant aucune donnée qui permettrait d'aller dans ce sens.
On continuera, comme je vous le disais, à suivre la question de cette mutation et de ce que l'on peut en dire, puisque pour le moment ça ne concerne que 1100 cas, ce qui est évidemment très peu à l'échelle d'un pays, mais c'est évidemment une évolution que l'on va suivre et dont on suivra ce qu'en dit la littérature scientifique. Pour en venir donc à notre sujet du jour, s'il est donc indiscutable que le couvre-feu et le deuxième confinement ont un effet sur la circulation du virus en France, en divisant le nombre de cas quotidiens par plus de 5, puisqu'on était aux alentours de 60 000 cas par jour au mois de novembre, alors qu'on est retombé à environ 10 000 aujourd'hui, il est aussi indiscutable que ce frein brusque n'aura pas marché jusqu'à l'effet escompté qui était l'objectif des moins de 5 000 cas par jour affichés par le président. Depuis une semaine environ, ce nombre de cas plafonne et ne réduit plus. Les autres indicateurs sont toujours, pour le moment, plutôt dans le vert, on va y revenir, mais la dynamique épidémique est redevenue préoccupante, d'autant plus à 10 jours du réveillon de Noël et des réunions familiales qui vont de façon certaine augmenter les contacts et donc favoriser la circulation du virus. Et si la France est encore provisoirement préservée d'une reprise épidémique franche, ce n'est pas le cas en revanche dans plusieurs pays voisins, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Espagne. Tour d'horizon des différentes situations épidémiologiques dans ce montage d'actualité réalisé par Olivier Bétard.
La situation sanitaire s'est considérablement améliorée au cours des dernières semaines, mais elle marque le pas depuis quelques jours. Mais retenez que si la France était parmi les pays européens les plus touchés par l'épidémie à la fin du mois d'octobre, la situation s'est inversée depuis. C'est probablement aujourd'hui en France que la situation a le mieux évolué depuis 6 semaines, et c'est en France que l'épidémie est aujourd'hui la mieux maîtrisée par rapport à nos voisins européens.
Durcissement des mesures au Royaume-Uni. D'ici mercredi à 00:01, Londres et d'autres régions du sud-est de l'Angleterre passeront en alerte maximale. Une pression qui monte. Ces derniers jours, le pays a connu une accélération spectaculaire des cas de contamination qui pourrait être liée, selon les autorités, à une mutation du virus.
On a souvent présenté la Corée du Sud comme un modèle dans la lutte contre le virus grâce à sa stratégie précoce de tests et de traçage. Eh bien, le pays est confronté en ce moment à une flambée de nouveaux cas. Le gouvernement vient donc d'imposer une série de mesures de restriction.
Et à l'instant, aux Pays-Bas, le Premier ministre annonce un confinement strict de 5 semaines. 5 semaines aux Pays-Bas, alors que l'Allemagne commence à durcir.
L'Allemagne, bonne élève européenne lors de la première vague au printemps, éprouve les plus grandes difficultés à faire cette fois baisser le nombre d'infections avec environ 20 000 nouveaux cas recensés chaque jour.
Et signe de la gravité de la situation, Angela Merkel est sortie de ses gonds aujourd'hui devant les députés. C'est extrêmement rare d'ailleurs, les Helen Kohl, les Allemands n'avaient encore jamais vu leur chancelière dans cet état.
Avant Noël, avant de retrouver papy et mamie, il faut réduire au maximum ses contacts pendant une semaine. Et nous devrions peut-être encore pousser pour que les vacances ne commencent pas comme prévu le 19 décembre, mais le 16. Qu'est-ce qu'on dira de nous si au regard de cette épidémie historique, nous n'avons pas été capables de trouver une solution pour ces 3 jours de classe? Surtout si après, il n'y a plus jamais Noël avec les grands-parents.
Voilà la situation en France et dans plusieurs pays européens. Quand on regarde d'une façon un peu comme ça globale la situation, effectivement, Dominique Costagliola, on se dit que la situation, comme vient de le dire d'ailleurs l'OMS dans un communiqué ce matin en Europe, est relativement préoccupante et que la troisième vague est en train manifestement d'advenir.
On est dans, au mieux dans les pays, on est à des taux d'incidence qui sont en plateau, voire qui repartent à la hausse, comme par exemple aux Pays-Bas. Il faut voir en plus que c'est dans un contexte, en tout cas en France, on a plutôt fait un peu moins de tests, donc il faut toujours, bien sûr, quand on fait ces comparaisons, regarder aussi le nombre de tests, le taux de positivité. Par conséquent, la situation est fragile, et donc il suffirait de pas grand-chose pour la déséquilibrer, et que ça reparte effectivement à la hausse, y compris en France.
Florence Adair, votre sentiment par rapport à la situation ces dernières semaines et en France et dans le reste de l'Europe ?
Alors nous, du point de vue, parce que je peux parler de ce que je connais, c'est-à-dire la situation hospitalière, on a quand même l'impression d'un ralentissement, d'un tassement, je vais dire, en fait, du nombre d'hospitalisations qui est tout à fait manifeste et qu'on voit bien sur les chiffres. En revanche, on ne revient pas à une ligne de base. Et ça, effectivement, c'est peut-être... Il y a toujours eu des patients hospitalisés pour le Covid entre la première et la deuxième phase, en tout cas dans mon institution, mais cet été, par exemple, c'était un nombre extrêmement faible. Or, il semble que le nombre de patients qui soient régulièrement hospitalisés soit assez élevé encore, et qu'on s'oriente vers une situation un peu chronique, je dirais, de flux de patients qui arrivent très régulièrement et peut-être à une hauteur un peu plus importante que ce qu'on a connu cet été. Et comme dit Dominique, la situation est délicate avant qu'on ne puisse éventuellement repasser en phase exponentielle de croissance des nombres de cas hospitalisés.
On va regarder avec précision un peu ces différents indicateurs et puis on rappelle évidemment que l'un des pièges entre guillemets de cette épidémie, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre le nombre de contaminations, les hospitalisations, les passages en réanimation et in fine dans les pires des cas les décès. On va refaire un petit tour d'horizon de tout cela, mais je vais vous poser une question à toutes les deux très simple, hein, compte tenu aujourd'hui des indicateurs qui sont les nôtres en France, est-ce qu'il aurait été plus judicieux de faire ce que vient de faire par exemple la chancelière allemande, c'est-à-dire d'annuler Noël, Dominique Costagliola?
Alors, je ne sais pas, annuler Noël, si ça a un sens, mais il faut d'abord voir que la situation, elle est complexe. Et c'est le virus qui nous met dans cette situation complexe. Et les différences qu'il y a entre les différents pays, eh bien, on a dit dans la première vague, tel pays fait mieux, tel pays fait moins bien. On s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas au cours de la deuxième vague. Et ça dit bien que c'est au fond la circulation du virus qui rend la situation complexe et qu'aucun pays, en tout cas d'Europe, n'a trouvé la solution miracle. Hein ? Mmh. Parce que c'est difficile. Alors, j'aurais préféré finalement qu'on ne relâche pas les mesures et peut-être même les mesures qui ont été prises le 28 de réouvrir les commerces, ça m'aurait semblé plus raisonnable de ne pas le faire. En même temps, je comprends qu'on ait fait une balance et qu'on ait décidé d'y aller quand même. On voit bien que le fait de ne pas avoir rouvert les lieux de spectacle et les lieux de culture, on va dire, au 15 décembre, a entraîné une totale incompréhension, alors même que ça avait bien été dit que c'était si la situation le permettait. Donc voilà, je veux pas jeter la pierre parce que c'est complexe. Mais si ça avait été que moi, j'aurais préféré que les mesures de libéralisation ne soient pas prises, effectivement.
Florence Adair, qu'en pensez-vous? Parce que on l'entend et on refera un point plus précis sur la situation hospitalière tout à l'heure. Mais là, pour le moment, on entend que les services hospitaliers, eux aussi, sont plutôt en train de se désengorger. Il faut attendre peut-être encore 10 jours, 15 jours pour avoir les conséquences de ce plafonnement du nombre de contaminations. Est-ce que vous redoutez, vous, que les fêtes de Noël provoquent 15 jours, 3 semaines après, c'est-à-dire vers la mi-janvier, à nouveau une affluence dans les services hospitaliers?
Oui, alors c'est tout à fait évident que c'est ce qu'on craint. Après, à défaut de craindre, nous nous y préparons. C'est-à-dire que globalement, on a bien compris qu'on était probablement dans une dynamique où on n'aurait pas tordu le cou à ce virus en une fois, et que c'était une guerre des nerfs qu'on avait entamée avec ce virus, et qu'il était absolument hors de question de lui laisser la moindre possibilité de nous mettre en très très grande difficulté. Donc globalement, on est quand même en train de, on a déjà sur les deux premières phases appris à monter, démonter des systèmes opérationnels hospitaliers qui sont maintenant parfaitement efficients. Alors on est certes un peu fatigué, tout le monde est fatigué, mais s'il faut y aller et refaire un troisième passage, s'il faut s'y recoller pour une troisième fois, on s'y recollera. Et on passera le cap, comme on l'a déjà fait deux fois consécutives. Aussi, j'ai quand même l'impression, mais peut-être que c'est totalement subjectif, et Dominique est là pour me corriger si ça c'est vraiment trop subjectif. Il me semble que les gens sont quand même beaucoup plus conscients, et que les mesures barrières et le port du masque, notamment dans les lieux publics et dans les circulations, enfin dans toute la circulation publique des gens, est encore même un petit peu mieux respectée de vague en vague. Et que on va vers quand même au niveau populationnel des pratiques qui sont de plus en plus cohérentes avec des gestes de prévention.
France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et à 16h17, nous faisons donc un point sur la situation épidémiologique liée à l'épidémie de Covid-19 en compagnie de Dominique Costagliola et Florence Adair. Peut-être qu'on peut redire quelques mots sans rentrer forcément dans le détail des chiffres, mais j'aimerais peut-être vous entendre sur non seulement ce plateau, peut-être pour commencer, Dominique Costagliola, qui se stabilise entre 10 et 12 000 cas à jour sur des moyennes lycées sur une semaine. Comment expliquer, selon vous, que cet effet du confinement n'ait pas duré aussi longtemps que lors du premier confinement? Pourquoi est-ce qu'on arrivait si rapidement à cette situation de plafonnement?
D'abord, le confinement, il a été moins strict. Et sur deux aspects, d'abord, qu'il y ait plus de travail en présentiel que ça n'était le cas lors du premier confinement. Et surtout, les écoles sont restées ouvertes. Alors, l'impact des écoles sur la circulation du virus, c'est quelque chose qui n'a pas été bien reconnu en France, hein, mais dans beaucoup de pays, c'est quelque chose qui est tout à fait pris en considération. Et il y a même un article qui vient de sortir aujourd'hui dans Science, qui essaye d'évaluer comme ça un petit peu globalement l'impact des différentes mesures, et qui confirme que la conjonction de la fermeture des écoles et des lycées est un moyen efficace, au fond, pour contrôler la circulation de l'épidémie. Mmh. Donc c'est ça qui explique que l'effet de ce confinement-ci a été moins fort et moins durable que l'effet du confinement précédent.
Mais alors là-dessus, peut-être quelques précisions comme Dominique Costagliola, parce que on a beaucoup entendu, on a beaucoup dit, et j'ai beaucoup dit aussi suite aux études et aux travaux que nous avons pu consulter avec l'équipe de la méthode scientifique, que il y avait tout de même énormément de littérature scientifique pour dire qu'effectivement les enfants, les écoles n'étaient pas des lieux de diffusion ou de propagation de l'épidémie. Je vous entends et j'entends ce que vous venez de dire à l'instant. On entend également ce qu'a dit le Premier ministre en disant finalement vous pouvez garder vos enfants le jeudi et le vendredi pour éviter qu'il y ait de la propagation virale avant les fêtes. Et du coup, là-dessus, je dois dire que tout le monde, ou en tout cas moi le premier, on peut être légitimement assez confus sur le rôle des enfants dans cette propagation épidémique.
D'abord, il y a deux choses qui comptent dans le fait de jouer un rôle dans la propagation. Il y a effectivement, est-ce qu'on est infectieux si on est porteur, mais il y a aussi le nombre de contacts que l'on a. Et c'est la résultante des deux qui va dire qu'on joue un rôle ou pas dans la transmission. Et La deuxième chose, c'est que évidemment, il y a un certain nombre de gestes barrières qui sont mis en place dans les écoles, mais un moment où au fond il n'y a pas de gestes barrières tant que ça, et dans lequel on n'a pas de masque et on parle, c'est la cantine. Et c'est difficile d'imaginer qu'il ne se passe absolument aucune contamination dans ce contexte-là dans les écoles, alors que c'est quelque chose qui ressort des études qui sont conduites, quand c'est sur le lieu de travail et quand c'est dans des restaurants ou dans des bars. Mmh. Donc voilà, c'est les deux qu'il faut compter. Et quand on va à l'école, on a beaucoup de contacts. Mmh. Et même si on est moins infectieux, au total, ça fait quand même des cas. Et bien entendu, on voit bien que très souvent, on se contamine dans le milieu familial, mais il faut bien qu'une des personnes du dit milieu familial ait été celui qui ramène finalement le virus dans le circuit familial. Et les enfants peuvent jouer un certain rôle. Alors, les données dans la littérature, elles sont disparates. Il faut voir qu'une partie de ces données a été collectée à un moment où les pays étaient en confinement. Et donc, on n'était pas vraiment en situation d'exposition à l'école. Et quand on a des données qui sont vraiment à des périodes où les écoles n'étaient pas fermées, eh bien les résultats ne sont pas les mêmes que quand on a des données qui datent finalement de la période pré-confinement ou tout début du déconfinement précédent, qui ne sont pas vraiment bien adéquates pour juger la situation actuelle avec une circulation assez intense du virus. Mmh.
Florence Adair, vous avez une opinion à nous livrer justement à ce propos et sur la part des enfants. Alors c'est toujours en plus un peu difficile parce qu'on quand on dit la part des enfants, on pense aux plus petits, mais il y a certainement une différence ou en tout cas une progressivité dans la contagiosité ou dans la circulation du virus entre les vraiment plus petits qui sont en maternelle ou en primaire et les plus grands qui sont au lycée. Vous, votre point de vue clinique ou hospitalier par rapport à cela ?
Nous, moi, j'ai pas énormément parce que les enfants, on en voit extrêmement peu. Je suis pas non plus très spécialisée dans tout ce qui est urgence pédiatrique, mais les pédiatres nous disent bien que c'est vraiment pas le. En tout cas, c'est pas, si vous voulez, la problématique qui nous mobilise dans des grosses institutions et en particulier sur les services d'accueil des urgences qui sont vraiment pas du tout saturés au niveau pédiatrique, voire beaucoup moins que d'habitude parce que beaucoup de virus ne circulent plus. Donc je dirais que la problématique hospitalière pédiatrique est quelque chose qui finalement est complètement au second plan. Mais c'est par contre, effectivement, Dominique a tout à fait raison de préciser qu'il y a une vase communicante entre les réservoirs pédiatriques, qui ne sont pas des réservoirs hospitaliers, qui sont des réservoirs communautaires, c'est-à-dire vraiment dans les milieux de vie, et que effectivement les enfants à l'école sont peut-être moins infectés effectivement, mais ou moins infectants on va dire, mais que effectivement en termes de contact c'est très difficile, de contact tracing c'est très difficile de maîtriser cette composante là, et que effectivement peut-être qu'il faut qu'on révise un peu notre copie là-dessus, mais en même temps socialiser les enfants à l'école et avoir des écoles qui fonctionnent est aussi quelque chose de très important après la première phase de confinement qui a quand même montré que c'était extrêmement difficile.
Mais ça peut à votre avis avoir un effet de garder ces enfants deux jours à la maison avant le début des vacances, ou est-ce que c'est relativement anecdotique à votre avis, Florence Adair?
Alors, je pense que si on est en situation, comme le disait Dominique, extrêmement fragile, tout est bon à prendre. C'est-à-dire que si ça se joue à quelques milliers de cas près qui pourraient engendrer, encore une fois, un passage, une cassure de la courbe d'incidence et qu'on aille vers une courbe d'incidence qui soit tout de suite beaucoup plus élevée, voilà pourquoi pas. Après, je suis pas du tout compétente pour dire si ça se joue à ça ou pas.
Peut-être un mot, Dominique Costagliola, sur ce qu'on appelle le taux de reproduction effectif, hein, c'est-à-dire ce taux qui est, lorsqu'il est supérieur à 1, fait basculer la maladie du côté du seuil épidémique, c'est-à-dire que c'est un malade qui en contamine 2, puis 3, etc. Alors que quand on est en dessous de 1, on est en réduction et en diminution de l'épidémie. On sait qu'à la sortie de ce deuxième confinement, au niveau national, il était retombé aux alentours de 0,5-0,6. Là, il est au-dessus de 0,8. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Pas beaucoup plus que ça. 0,83.
Voilà.
Il est donc proche de 1. Et donc, à nouveau, il ne suffit de pas grand-chose pour déséquilibrer. Peut-être pour commenter, je pense que les deux jours, là, c'était l'idée d'avoir une période de 7 jours avant Noël, dans lequel on limite le nombre de contacts. Et donc, si on n'est pas à l'école, on limite le nombre de contacts. compris, on n'accompagne pas les enfants à l'école, les enfants ne sont pas en contact avec beaucoup de personnes. Et du coup, normalement, soit on n'est pas infecté au bout des 7 jours, soit on a des symptômes et on se fait tester. Et en tout cas, on ne va pas contaminer les autres membres de sa famille. Donc,
une sorte de sas d'incubation, quoi. Ce serait une sorte de sas.
C'est plus dans cet esprit-là que la mesure a été proposée, à mon avis.
Sur le taux de reproduction effectif, est-ce que ça a vraiment un sens aujourd'hui, Dominique Costaliola, de l'évoquer au niveau national? Parce que 0,83 au niveau national, on sait qu'il y a de fortes disparités. On sait que, par exemple, la région Bretagne est extrêmement peu touchée par rapport au reste du pays. Est-ce qu'il y a des endroits, des métropoles ou des régions où le taux de reproduction est repassé au-dessus de 1? Et comment est-ce qu'on peut envisager tout cela de manière un peu plus fine à l'échelle du territoire?
Alors, dans les estimations qui sont publiées toutes les semaines par le Santé publique France, hein, ils donnent des estimations par région. Finalement, ce qui était frappant lors de la dernière publication, c'est que c'était assez homogène. Il n'y avait aucune région où c'était repassé au-dessus de 1, aucune en France. Mais au contraire, à peu près toutes les régions qui étaient quand même sur des choses qui étaient entre 0,7 et 0,8. Donc, relativement homogène à l'heure actuelle au niveau des régions. Et bien sûr que c'est quelque chose qui compte. Il y a eu des moments où on avait des situations très, très différentes suivant les régions. Et après, on ne fait pas ces calculs-là, par exemple, au niveau des métropoles ou des plus petites villes ou des villages. Il est probable que ça joue quand même aussi, que c'est pas le risque n'est pas le même dans les grandes métropoles versus des endroits de moins de 5000 habitants, par exemple.
Alors, concernant la situation actuelle, ce plateau de contamination autour de 10, entre 10 et 15 000 cas par jour, hein, il faut bien les voir lisser sur une semaine parce que les résultats jour après jour peuvent être assez disparates. Donc, on est, disons, autour de 12 000. Est-ce que les mesures en vigueur à l'heure actuelle, c'est-à-dire le couvre-feu, la fermeture des bars, des restaurants et des lieux culturels peut, à défaut, au moins contenir une reprise épidémique, en tout cas maintenir ce plateau de contamination suffisamment longtemps pour traverser cette période de fête, Dominique Costaliola.
Disons, on a quand même l'idée qu'il va y avoir plus de contacts parce que les gens vont se déplacer et vont rencontrer des personnes qu'ils ne voient pas au quotidien tous les jours. Alors, est-ce que ça sera suffisant comme mesure? Moi, honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que ces lieux-là sont des lieux où on n'a pas de masque et où on parle. Et donc, des lieux qui peuvent être source de contamination. Voilà. Est-ce que ça suffira? Je pense que les avis sont partagés sur cette question. Et c'est le virus qui va nous départager. Je ne pense pas que ça vaille la peine de dire oui ou non.
Bien sûr.
On ne sait pas, en fait.
Non, mais l'idée surtout, c'est d'éviter de faire des prévisions au doigt mouillé. C'est vraiment pas du tout ce qu'on recherche ou ce que je vous demande. Florence Adair, est-ce que vous avez une opinion à ce propos? Et surtout, du point de vue hospitalier, vous disiez que tant qu'on est sur un plateau de contamination, l'hôpital peut tenir, qu'il y a eu encore, évidemment, vous avez beaucoup appris, les méthodes d'hospitalisation, d'organisation, de réanimation ont permis d'optimiser au maximum la prise en charge des malades, de réduire beaucoup, hein, jusqu'à 50% le taux de mortalité. Ça veut dire que si on se maintient à ce plateau-là, on peut aborder peut-être le mois de janvier à peu près sereinement, en tout cas du point de vue hospitalier?
Ouais, du point de vue des structures hospitalières, oui et non, c'est-à-dire oui, ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'en cas d'acutisation on peut gérer. En cas de chronicisation, notre problématique ça va être de maintenir une activité normale au maximum de ses capacités, c'est-à-dire et puis bien sûr d'avoir une activité Covid à côté et que l'activité Covid et l'activité capacitative optimisée de façon à ce que la prise en charge de tous les patients à l'hôpital soit la meilleure possible, la limite est ténue pour arriver à tenir cet équilibre délicat. Et ça impose une discipline de fer aux équipes médicales et paramédicales. Et c'est notre problématique, c'est dans la durée finalement Si on admet qu'il y a un flux tendu de patients que nous ne baisserons pas en dessous d'un certain seuil et qu'il faudra en permanence jongler entre ces deux choses, tout le rôle de l'hôpital actuellement, c'est de trouver cet équilibre, non seulement de le trouver, mais en plus de pouvoir tenir dans la durée avec des effectifs d'un côté comme de l'autre qui soient au top de leur capacité. Et ça, on travaille à ça actuellement, après avoir passé la phase d'acutisation extrême de la première vague, le deuxième choc de la deuxième vague, mais qu'on a plutôt bien encaissé parce qu'on s'y est préparé et qu'on a très vite organisé l'hôpital et remonté des hôpitaux qui soient aptes à gérer la vague. Et actuellement, il faut absolument qu'on ait des hôpitaux modulables, hein, qui soient en capacité de garantir une prise en charge optimale pour tout le monde.
Et comment ça se passe du côté du personnel hospitalier, hein, parce que c'est évidemment une année extrêmement rude pour le personnel soignant. Vous disiez que vous êtes sous tension à 150% depuis 9 mois. Si on se maintient à ce plateau-là ou à cet étiage de contamination, est-ce que vous pouvez compter sur du renfort? Est-ce que vous avez eu éventuellement des moyens de l'Agence régionale de santé ou éventuellement même au niveau national? Comment ça peut se passer avec vos confrères du secteur privé ou éventuellement même avec du personnel libéral?
Alors, les hôpitaux ont des modes de fonctionnement dégradés avec des tas de procédures actuellement et des niveaux critiques qui vont de niveaux de... Enfin, tout est bien calibré actuellement pour une adaptation quasiment en temps réel. Je dirais que les équipes, mon appréciation en tout cas sur mon institution, c'est que les équipes très spécialisées d'un côté comme de l'autre sont extrêmement fatiguées parce que ce rythme de va-et-vient est assez épuisant. Néanmoins, tout est fait pour que maintenant il y ait des rotations d'équipes qui puissent travailler, notamment sur le versant Covid, et que les gens qui travaillent dans les secteurs Covid puissent éventuellement avoir des pauses et puis repartir après. Donc on essaye d'avoir des rythmes alternatifs. Le privé nous aide dans les phases d'acutisation, mais dès que les phases d'acutisation sont dépassées, le rôle du privé, c'est d'essayer justement de compenser dans toutes les autres pathologies, parce que ce qui est important, vraiment important actuellement, et de ce dont on se rend compte, c'est sur la première vague, c'est que il y a eu aussi la problématique de la prise en charge des patients non Covid. Et ça, on sait très bien qu'on a payé un tribut sur la première vague. Et donc notre obsession permanente, c'est cet équilibre, et c'est de se servir de tous les moyens, on va dire institutionnel, pour essayer de garantir aux patients une performance optimale. Alors les moyens, oui, l'ARS bien sûr essaye de débloquer des moyens. Nos institutions sont très organisées et le privé joue son rôle. Et je pense qu'au stade où on en est, on arrive à tenir le coup. Et je pense qu'il n'y a plus, je dirais, d'angle mort à l'hôpital où un patient risquerait d'être mal pris en charge s'il présente une pathologie autre que le Covid.
On va continuer à parler de la situation actuelle, de cet effet ou de l'effet prévisible du réveillon de Noël, de l'effet Thanksgiving qu'on a pu constater avec des conséquences assez complexes et difficiles au Canada notamment. On va parler de modélisation, on va évidemment parler des vaccins, on va parler des tests. Est-ce que tout le monde doit aller se faire tester avant de partir faire le réveillon chez les parents ou chez les grands-parents? Ce sera dans la deuxième partie de l'émission.
Oh,
Pas comme gentil, So Much So Little à 16h35 sur France Culture, toujours en soutien à la scène musicale indépendante française. Nous parlons, eh bien, du Covid. On fait un état des lieux un peu avant les fêtes en compagnie de Dominique Costagliola, qui est directrice de recherche INSERM et lauréate du Grand Prix de l'INSERM 2020, et Florence Adair, qui est infectiologue à l'hôpital de la Croix-Rousse, chercheuse au Centre International de Recherche en Infectiologie et lauréate du prix Recherche INSERM 2020. Pour tenter de comprendre la dynamique de l'épidémie à court terme, eh bien, les épidémiologistes ont recours, vous le savez, à des modélisations. Comment fonctionnent ces modèles? Que peuvent-ils prédire exactement, notamment à la veille des fêtes, et avec quelle certitude? C'est ce que vous êtes allé chercher à comprendre à l'Institut National de Sciences Mathématiques et de leurs interactions à l'Université Paris 13. Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Nicolas. Oui, Jean-Stéphane Dersin, directeur de recherche au CNRS, est très impliqué dans le suivi de l'épidémie. Dès fin mars, il a monté avec son équipe la plateforme ModCov19 pour mutualiser les compétences en modélisation et les proposer à tous les chercheurs qui travaillent sur la pandémie. Alors, on y trouve par exemple des ressources bibliographiques, des aides au calcul, des données numériques, des modèles de contrôle de l'épidémie, des modèles de propagation dans les populations. C'est une vraie boîte à outils qui est mise à disposition des épidémiologistes. Mais le problème pour prédire une prochaine vague, ce n'est pas tant d'avoir des modèles solides qu'on a déjà, mais d'avoir à disposition les données qui sont vraiment d'intérêt, en particulier les données relatives aux mobilités des personnes, qui sont difficiles à collecter car elles sont sensibles, mais qui seraient cruciales pour arriver à bien anticiper un éventuel prochain pic épidémique.
La plateforme ModCov, c'est une décision de notre part, c'est-à-dire personne ne nous a demandé de mettre en place ModCov19. Donc on en a parlé au PDG du CNRS, Antoine Petit, qui a donné son feu vert, et on a contacté l'ensemble des unités de l'INSMI, plus tout un tas d'autres unités, afin de recenser les travaux qui étaient faits en modélisation autour de l'épidémie. Alors la première étape, c'est une étape de recensement. Et dans un deuxième temps, la chose qui est extrêmement utile, c'est également la mise en contact, soit avec les problèmes qui se posent. Donc c'est beaucoup de la mise en relation de chercheurs afin d'être efficace et de répondre à des questions précises. Et une fois qu'on a répondu à ces questions précises, à autre chose, c'est réussir à faire remonter l'information.
Alors une question qui se profile en ce moment, c'est la survenue d'un troisième pic. Comment vous, avec votre expertise de mathématicien au sein de cette plateforme, vous pouvez fédérer, collecter, mutualiser des données pour venir en aide aux épidémiologistes?
En fait, les modèles sont parfaitement connus et ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est un problème de données qui servent à estimer les paramètres des modèles. Et pour ça, ce qui se passe, c'est que vous les voyez soit par le nombre de cas positifs, soit par les arrivées à l'hôpital. Avec du retard, 10 jours, 15 jours de retard par rapport à ce que c'était.
Et justement, on ne peut pas justement prendre en compte ce retard avec un décalage?
Alors, ce que savent très bien faire les modèles, c'est si vous ne changez rien, vous pouvez savoir l'évolution naturelle de l'épidémie. Mais vous ne pouvez pas savoir quel va être le comportement en population générale dans 15 jours. Et pas uniquement parce que vous allez prendre des mesures, aussi parce qu'il y a une réaction du grand public qui va faire que son comportement va influer sur les paramètres.
Oui, mais on peut établir différents scénarios en fonction des comportements, des données initiales et des données récoltées au fur et à mesure.
Tout à fait. À chaque fois, c'est ce qui est fait. Au moment du début du deuxième confinement, donc on est fin octobre, la décision du deuxième confinement est prise en fonction de différents scénarios qui sont évoqués, donc l'évolution naturelle en fonction du comportement des gens, sur l'engorgement du système hospitalier. Donc différents scénarios sont proposés et la décision est prise à ce moment-là.
Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a les décisions politiques, là on sort du deuxième confinement, on a les données de santé des entrées en hôpitaux, de cas en réanimation. Est-ce qu'à partir de là, on peut raisonnablement penser qu'il y aura une survenue d'un troisième pic ou troisième hausse de cas?
Non, on ne peut pas le dire parce que l'évolution de l'épidémie dépend non seulement des décisions qui sont prises, mais également des décisions individuelles de certaines personnes. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un tas de paramètres qui nous échappent totalement. Donc il faut voir que la plateforme MODCOV-19, son action principale n'est pas du suivi de l'épidémie proprement dit. C'est tout ce que vous allez avoir autour. Je vais donner quelques exemples. On a un exemple d'un chercheur qui s'appelle Bertrand Maury et qui travaille à mesurer en fonction des emplois du temps d'un établissement les contacts qu'il va y avoir entre les élèves. Il a mis en place une application qui va donner un score à l'emploi du temps, ce qui est une aide à la décision pour les directeurs d'école afin de créer l'emploi du temps qui est le moins impactant sur le nombre de contacts. Un autre exemple, Benoît Célin va faire une analyse du renouvellement de l'air dans les pièces. Ce qu'il va faire, c'est mesurer et modéliser la façon dont on doit renouveler l'air d'une pièce pour que les particules de l'air, en échange avec l'air extérieur, renouvellent l'air de l'intérieur de la pièce. On sait modéliser l'évolution de l'épidémie. Mais ce que nous, on veut, c'est pas cette évolution naturelle de l'épidémie. Ce qu'on veut, c'est pouvoir décrire l'efficacité des mesures qui sont prises sur l'épidémie elle-même. Donc évidemment, pour alimenter tous les modèles que l'on a, pour l'évolution de l'épidémie, hein, on a besoin à la fois de l'information de l'évolution de l'épidémie elle-même. Donc ça, c'est toutes les données de santé, hein. En revanche, les données qui sont très difficiles à obtenir, c'est les données de circulation, tout ce qui est données de mobilité, qui, elles, sont obtenues par la SNCF, la RATP, mais également par Google, par Facebook, par les opérateurs téléphoniques. Et ces données-là, elles sont extrêmement compliquées à obtenir.
Elles sont plus sensibles aussi.
Alors, elles sont compliquées à obtenir à la fois parce qu'elles sont sensibles et puis parce que ce n'est pas l'interlocuteur naturel, c'est-à-dire que les gens que j'ai cités n'ont pas à rendre publiques ces données-là. Il y a un véritable problème d'ouverture des données.
Voilà les modélisations de Jean-Stéphane Dersin. Peut-être une réaction simplement à ces modèles. On entend bien quelque chose qui me semble tout de même effectivement important, Dominique Costaliola et Florence Adair, c'est que dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de modèle, il n'y a aucun modèle, il y a des scénarios, mais il n'y a pas de modèle qui puisse nous dire ce que sera la situation épidémiologique à l'issue des fêtes. Dominique Costaliola.
Ça, absolument. Hein. On fait plutôt des what if dans le jargon. Donc, s'il se passe telle chose, alors voilà ce qui va survenir. Donc, ça va dépendre à la fois des mesures, à la fois de la façon dont les gens les adoptent. Et ça dépend aussi, malgré tout, de comment on a structuré son modèle et tout ça. Mais il y a de nombreuses équipes qui travaillent sur ça. Et pour ce qui est des données de mobilité, par exemple, dans mon laboratoire, quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Victoria Kolitsa, ça fait des années qu'elle travaille sur ces données de mobilité et qu'elle les avait finalement disponibles pour pouvoir faire comme ça un certain nombre de modèles sur qu'est-ce qui va se passer, notamment en région parisienne, où elle avait des données plus spécialement détaillées sur la mobilité en région parisienne.
Est-ce qu'on ne peut pas dire, alors c'est une sorte de comment dire, de version un peu rationnelle, et après des mois d'observation et de travail sur cette épidémie, que puisqu'il va y avoir une augmentation de la mobilité, une augmentation des déplacements, donc une augmentation de la circulation du virus, malgré tout, même si tout le monde fait les efforts maximum pour respecter les gestes barrières et prend ses précautions, statistiquement, on sera de toute façon confronté face à une augmentation de la circulation du virus, donc à une augmentation du nombre de contaminations. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de logique un peu implacable là-dessus, inéluctable par la statistique, Dominique Costaiola?
Disons, c'est sans doute le plus probable, mais il y a encore une incertitude, enfin un niveau d'incertitude dont on n'avait pas parlé, qui est celui, au fond, quel rôle joue précisément la température, le climat, l'humidité. C'est clair que ça en joue un, c'est clair que ça a favorisé la reprise dans l'ensemble des pays d'Europe, le fait qu'on soit plutôt à l'automne et malheureusement bientôt plutôt en hiver. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne sait pas bien comment ça a évolué, mais ça pourrait aussi impacter ce qui va se passer. Et après, malgré tout, le respect des gestes barrières est quelque chose effectivement d'important. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, on l'a vu que ce respect avait remonté au cours du deuxième confinement par rapport à ce que c'était dans l'entre-deux. Je pense que les gens sont quand même conscients de la situation difficile dans laquelle on est. Donc, voilà.
Florence Adair, votre point de vue.
C'est 100%, quoi.
Bien sûr, non, évidemment. Florence Adair, votre point de vue à ce propos.
Je pense que Dominique a apporté un éclairage très, très bien. En gros, on ne sait pas, il y a des scénarios et on va voir ce qui se passe. En revanche, il y a des points positifs, c'est que, si vous voulez, il y a les problématiques de climat, de température, d'humidité, mais néanmoins, par contre, on n'a pas pour l'instant la problématique des co-infections à gérer. Ça, c'était quelque chose qu'on
craignait
énormément à l'hôpital, puisque vous savez que la grippe, chaque année, c'est une problématique majeure, qui engorge aussi, qui est une source d'engorgement des urgences et qui sature totalement le fonctionnement des hôpitaux.
Alors, sur la grippe.
Pas cette problématique-là du tout.
Sur la grippe, je vous interromps un instant, excusez-moi, Florence Adair, sur la grippe, pour en avoir parlé avec d'autres virologues et d'autres infectiologues, a priori, les mesures de confinement, les gestes barrières, etc., font qu'il n'y a pas, ou quasiment pas pour le moment, d'épidémie grippale cette année.
Alors, il n'y a pas d'épidémie grippale, comme il n'y en a pas eu dans l'hémisphère sud durant tout cet été. Et pour nous, ça, c'est un énorme avantage. C'est quelque chose. Et il n'y a pas non plus pour les enfants. De virus de la bronchiolite, ou très peu, qui est aussi largement lissé, ce qui fait qu'aussi les flux de patients à l'intérieur des services d'urgence pédiatrique sont aussi largement limités. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça nous déleste de cette problématique qui, à gérer en même temps, aurait pu vraiment, alors là pour le coup, poser des problèmes. Je pense, ajoute à ça qu'il y a eu beaucoup de... Je pense que les gens se sont très bien vaccinés cette année. Je n'ai pas de chiffres précis, mais notre appréciation, encore une fois, un peu subjective, a été qu'il y a eu beaucoup de ruptures de stock de virus, de vaccins contre la grippe. Et donc, à cet égard-là, on peut remercier les populations de nous donner un petit coup de main. Les gestes barrières nous aident. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de gérer le Covid plus sereinement que ce qui était prévu.
Alors, à défaut d'avoir des modèles, on a des exemples qui sont pas très encourageants. À propos du repas de fête, il y a ce qu'on appelait l'effet Thanksgiving au Canada. C'était le 12 octobre. Deux semaines plus tard, le nombre de cas par jour était multiplié par 2. Un mois après, il était multiplié quasiment par 4. Est-ce que ça veut dire que c'est, là pour le coup, à défaut d'avoir un modèle, quelque chose qui peut nous donner ou nous renseigner sur ce que risquent d'être les conséquences des fêtes, Dominique Costaiola?
Oui, alors plus d'ailleurs effectivement l'exemple canadien dont vous avez parlé que celui des États-Unis, parce qu'aux États-Unis il y a plein d'États où il n'y a absolument aucune mesure barrière en œuvre, donc on ne peut pas vraiment s'en servir pour s'imaginer que c'est ce qui risque de nous arriver. L'exemple canadien est quand même peut-être plus proche de notre situation et donc montre bien que c'est un moment à risque. Absolument, c'est un moment à risque.
Alors, on va essayer
de contacts, pardon. Et puis on rencontre des gens qu'on ne voit pas tous les jours et avec lesquels on mange. Et en général, quand on mange, on parle. Et c'est ce moment-là qu'on risque de transmettre le virus si on en est porteur.
Alors, pour essayer de réduire au maximum, justement, eh bien, la reprise épidémique, il y a plusieurs options. On a vu ces derniers jours, notamment dans les grandes villes, des queues se faire dans les pharmacies pour faire des tests antigéniques ou pour demander des tests PCR. On sait qu'il y a deux villes, Le Havre et Charleville-Mézières, qui ont décidé de tester l'intégralité de leur population. Est-ce qu'il faut aller se faire tester avant d'aller au réveillon, Florence Adair?
Alors, écoutez, là, moi, clairement, il est très difficile d'avoir la moindre. Je pense que si on a des facteurs de risque d'exposition et qu'on est quelqu'un qui mène une vie quotidienne, on va dire normale, et qui nous amène à être à extérioriser pas de chez nous et à prendre le métro et aller sur un lieu de travail et avoir des enfants qui rentrent de l'école et tout,
ce qui correspond à beaucoup de personnes, hein, tout de même.
Ça peut être ce qui correspond à une majorité de tous les gens actifs. Je pense que ça paraît logique, effectivement, de prendre cette précaution et de la prendre, comme le disait tout à fait pertinemment Dominique tout à l'heure, dans des délais qui soient compatibles avec éventuellement une période d'isolement pour peut-être pouvoir un tout petit peu profiter quand même au-delà de la période à risque.
C'est-à-dire de faire les tests 7 jours avant le réveillon, 2 jours avant le réveillon. Qu'est-ce qui vous semble?
Pourquoi pas? Parce que ça permettra peut-être. Dominique, je ne sais pas exactement ce que vous en pensez, parce que je connais, enfin voilà, moi je pense qu'effectivement la période d'une semaine à 10 jours me paraît tout à fait, le créneau d'une semaine à 10 jours me paraît tout à fait pertinent.
Dominique Costagliola, qu'est-ce que vous en pensez?
Disons, ça dépend à nouveau du nombre de contacts qu'on a eu. Si dans une période on a eu beaucoup de contacts, il faut se faire tester, disons, le plus tard possible.
C'est-à-dire le plus tard possible avant le réveillon, hein. C'est ça.
Voilà. et après, il faut que ce soit possible parce que les services ne sont pas taillables et corvéables à merci, donc il faut qu'il y ait de la place pour le faire. Mais après, ça garantit. Vous voyez, si on a été contaminé 3 jours avant, le test, surtout si c'est un test antigénique, sera le plus probablement négatif. Donc voilà, c'est pas la panacée. C'est-à-dire, s'il vous trouve positif, ça vous dit qu'il ne faut pas que vous y alliez. Mais si vous trouvez négatif, ça donne un sentiment de fausse sécurité qui pourrait vous conduire à finalement exposer les membres de votre famille. Donc voilà, c'est un peu ambigu l'intérêt du test dans cette situation-là. Il ne donne une réponse claire que si le test est positif. Quand le test est négatif, ça ne garantit pas qu'on ne soit pas infecté.
Ça, vous parlez des tests antigéniques, pas des tests PCR.
Voilà.
Question, il y a des tests dont on n'entend plus du tout parler, dont on a pas mal entendu parler cet été et aujourd'hui vraiment on ne sait plus ce que c'est devenu. Les tests sérologiques, est-ce que ça vaut le coup d'aller faire un test sérologique pour savoir si j'ai des anticorps et si donc je l'ai déjà attrapé, si eh bien du coup au moins ça lève l'un des doutes, Dominique Costagliola?
Alors je pense que c'est pas utile par rapport à ça, parce que d'abord je pourrais l'avoir eu et puis ne pas avoir de test d'anticorps, bon ça c'est pas très grave, mais finalement, au fil du temps qui passe, on s'aperçoit de plus en plus de gens, même si pour l'instant ce n'est pas encore des millions, de gens qui ont déjà été infectés et qui sont à nouveau infectés. Donc là, à nouveau, ça ne vous garantit pas que vous n'avez plus aucun risque d'être infecté.
Alors les cas de réinfection, Dominique Costagliola, on en a parlé à ce micro, ils sont quand même très 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 mineurs. Il y en a très très peu par rapport à l'ensemble de la population qui a pu être contaminée, non?
Les cas bien documentés, oui.
Il y en a moins d'une dizaine.
Qui sont signalés ici ou là par des cliniciens, qui ne sont pas forcément très très bien documentés au sens où on a bien les prélèvements d'avant, les prélèvements d'après, etc. Mais malgré tout, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, par exemple, Santé publique France a modifié sa façon de faire les calculs des taux d'incidence la semaine dernière, pour prendre en compte la possibilité que des gens puissent se réinfecter. Alors, vous voyez, ils ne l'ont pas fait juste pour le plaisir de modifier la formule.
À quel moment est-ce qu'on va voir les conséquences de ces fêtes, concrètement? Est-ce que, par exemple, le 7 janvier, qui est censé être le moment où on va reposer la question des mesures, des mesures sanitaires de contrôle des déplacements, est-ce qu'au 7 janvier, on verra immédiatement déjà les conséquences du réveillon et des vacances de Noël, Dominique Costagliola?
D'abord, quand on parle des cas et c'est des diagnostics qu'on a tous les jours aux alentours de 10-12 000 là en ce moment, hein. Et ces diagnostics, ils surviennent quelque chose comme 7 jours après l'infection. Pourquoi? Parce que il faut en moyenne 5 jours pour commencer à avoir des symptômes. Et puis, il faut, selon les dernières données de Santé publique France, environ 2 jours pour aller faire un test. Donc, c'est pour ça qu'on a ce délai de 7 jours. Donc, à partir de là, oui, si on est le 7 janvier, on est 2 semaines après Noël et 1 semaine après le jour de l'an. Donc, sur les diagnostics, en tout cas, on doit pouvoir s'attendre à avoir un effet s'il y en a eu un.
Donc ça veut dire que concrètement, sans être évidemment pessimiste, mais en essayant d'être un peu réaliste, sans atteindre forcément l'ampleur de l'effet Thanksgiving au Canada, on peut tout à fait imaginer un retour de mesures de restriction des déplacements à partir du 7 janvier en France.
On peut s'attendre à avoir une augmentation des diagnostics. Et après, c'est pas moi qui fais les décisions, alors je ne sais pas ce que les décideurs envisagent dans ce contexte.
Ouais. Florence Adair, je vous entends sourire.
Oui, parce que c'est exactement ça, je me disais. En fait, nous, on va constater, entre guillemets, et puis les décisions seront prises au plus haut niveau. Mais c'est vrai que s'il doit se passer quelque chose, ça va se passer effectivement à partir du 7 janvier, y compris au niveau hospitalier, où on s'attend à ce que ça bouge un petit peu.
Ce dont on est sûr maintenant, c'est que la vaccination, dont on n'a pas vraiment eu le temps de parler, mais on arrive dans les dernières minutes de cette émission, a priori, il est trop tôt, quand bien même la campagne commencerait début janvier, pour qu'elle ait le moindre effet sur une éventuelle troisième vague, Florence Adair.
Je pense oui. Là, il faut être. Là, je pense pas que la vaccination va impacter quoi que ce soit sur, en tout cas sur les premières semaines de l'année. Elle est essentiellement, elle n'aura pas ce but-là. Et je crois que non, il faut pas compter sur un effet de la vaccination avant plusieurs mois.
Plusieurs mois, c'est-à-dire on pourrait commencer à sentir les effets de la vaccination sur cette fameuse immunité de groupe, ou en tout cas pour la diminution suffisante de la circulation du virus aux alentours quoi, du printemps, du début de l'été, de l'automne 2021.
Moi, je suis complètement dans l'incapacité de vous donner une évaluation, ce d'autant que les gens, vous savez qu'il y a le plan de vaccination comprend plusieurs vagues de vaccination avec des populations très particulières au début de la vaccination, qui sont des populations beaucoup plus à risque. Et donc, il n'y aura pas de vaccination de masse dans un premier temps, et ce d'autant qu'on ne sait toujours pas combien de quantités de vaccins effectives on va pouvoir distribuer. Donc moi, je suis absolument dans l'incapacité de vous donner la moindre évaluation. Un point qui est important aussi, c'est de comprendre que cette vaccination aura lieu pour certaines populations qui sont peut-être un peu plus à risque, et on ne connaît pas le degré d'efficacité de la vaccination chez ces populations-là. Donc on a encore besoin d'informations. Degré d'efficacité, ça veut dire le fait que vous soyez prémuni contre le fait d'attraper l'infection, ou à défaut que vous fassiez une infection moins sévère, bien sûr, parce que vous avez un minimum de protection. Donc il y a plein d'interrogations qui font que pour l'instant, c'est compliqué de répondre à toutes ces interrogations, et notamment une séquence temporelle qu'on ne connaît pas bien.
Dominique Costa-Léonard, en un mot, pour conclure.
La chose qu'on pourrait dire, c'est que, comme au début, on va vacciner des personnes à risque, si elles sont protégées de faire des formes graves, ça pourrait diminuer l'impact de futures vagues sur le nombre d'hospitalisations, mais ça n'aura pas d'impact dans un premier temps, tant qu'on ne vaccine pas large en population générale, ça n'aura pas d'impact sur la circulation du virus et sur le niveau d'immunité grégaire. Mais ça pourrait quand même alléger ce qui va se passer à l'hôpital, mais sans doute pas avant le printemps.
Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Merci Dominique Costa-Léonard, merci Florence Adair d'avoir été avec nous pour faire le point sur la situation épidémiologique à la veille, ou en tout cas peu de temps avant les vacances et le réveillon de Noël. Je vous rappelle que comme tous les mercredis, vous pouvez retrouver les idées claires sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, et en podcast sur l'application Radio France, aujourd'hui consacrée aux conséquences économiques de l'épidémie de Covid. Est-il vrai que l'épidémie de Covid a été plus profitable pour les plus riches que pour les plus pauvres? On en parle avec l'économiste Anne-Laure Delatte. Et puis je vous rappelle aussi que vendredi, en forme de cadeau de Noël avant ces vacances, on vous propose un entretien exclusif avec l'auteur de science-fiction Ted Chiang, qui vient de sortir son nouveau recueil Expiration, et dont l'une des nouvelles avait été adaptée dans le film Premier Contact de Denis Villeneuve. Ce sera vendredi à 16h. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'est Alex Dang à la technique. Demain, nous parlerons de cette petite voix dans votre tête qui vous parle, qui vous parle, qui vous parle, qui vous empêche même parfois de dormir, qui vous engage parfois dans d'interminables dialogues intérieurs. Quelle est cette petite voix que vous veut-elle? Il sera question de linguistique intérieure demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.